Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, l'entretien d'aujourd'hui, c'est sur Sainte Marguerite Marie et sa manière de vivre l'Eucharistie, la communion, la Sainte Messe. Alors, je fais tout de suite une distinction. Nous allons surtout parler de ce qui relie Marguerite Marie à la communion, à l'acte de communier, c'est-à-dire de participer à la messe, si souvent vécue donc par la sainte, mais nous ne ferons pas ou peu allusion aux innombrables temps d'adoration devant le Saint-Sacrement qu'elle a aussi intensément vécu et dont elle témoigne aussi très souvent. Là, le sujet serait trop surabondant. Donc, je distingue bien entre ce qui relève de l'adoration devant le Saint-Sacrement et même des heures et des heures d'adoration et ce qui concerne plus la communion pendant la messe. Alors, cela dit, il y a des paroles, je vais citer pas mal de paroles d'elle qui peuvent s'appliquer aux deux, à son attitude devant l'adoration, mais qui disent aussi quelque chose de sa ferveur eucharistique au moment de la communion. Je voudrais tout de suite commencer donc avec une de ses célèbres prières, un extrait de sa prière au Sacré-Cœur de Jésus. Ô feu divin, donc qui s'applique aussi bien à l'adoration qu'à la communion. Ô feu divin, ô flamme toute pure du cœur de mon unique amour Jésus, brûlez-moi sans pitié, consommez-moi sans résistance. Ô amour du ciel et de la terre, venez, venez tout dans mon cœur pour me réduire en cendres. Ô feu dévorant de la divinité, venez, venez fondre sur moi, brûlez-moi, consommez-moi au milieu de vos plus vives flammes qui font vivre ceux qui y meurent. Ainsi soit-il. On pourrait avoir l'impression de quelque chose d'un petit peu doloriste ou excessif, ou surtout quand elle dit « venez tout dans mon cœur pour me réduire en cendres ». Mais en fait, c'est très biblique. Dans l'Eucharistie, Marguerite Marie avait une conscience de la présence de Dieu, de ce resplendissant d'amour qu'elle a expérimenté lors de la deuxième grande apparition. « Mon doux Sauveur m'a paru tout resplendissant d'amour ». Les plaies de sa passion étaient comme des soleils et la plaie du côté était comme une fournaise ardente, ardente de charité. Et alors, on peut faire une analogie biblique. Il y en aurait plusieurs, mais celle à laquelle je pense, c'est dans Isaïe 6. Le prophète, qui est tout à fait donc accablé par l'expérience qu'il fait de Dieu dans le temple, le Seigneur qui se fait entendre, qui fait entendre sa voix dans le temple, et alors il dit « Malheur à moi !» Je suis un homme aux lèvres impures et mes yeux ont vu le Seigneur ou mes oreilles ont entendu la voix du Seigneur. Et alors c'est là qu'il y a un séraphin qui vient toucher les lèvres du prophète avec un charbon ardent pour le purifier et lui permettre d'entendre la voix même de Dieu, qui à ce moment-là devient plus familière, un dialogue peut commencer. D'ailleurs, dans ce même chapitre d'Isaïe, c'est là où Dieu dit « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et le prophète, très spontanément, répond « Me voici, envoie-moi. » Donc c'est un petit peu la même chose que vit ici Marguerite Marie. Par grâce, et depuis son enfance, mais surtout depuis qu'elle est entrée au couvent, elle a fait si souvent l'expérience de cette majesté, de cette transcendance, en même temps de cette tendresse, mais tendresse brûlante, consumante, qu'elle a des termes véritablement bibliques, elle désire à ce moment-là, et là ce n'est pas du dolorisme ou du je ne sais pas quoi, du jansénisme, elle désire disparaître pour laisser complètement resplendir en elle la flamme de l'amour de Dieu. « Venez tout dans mon cœur pour me réduire en cendres, feu dévorant de la divinité. » Alors il y a aussi cette prière d'invocation au cœur de Jésus, Je vous salue, cœur de Jésus, en tous vos états. En tous vos états, c'est-à-dire en tous vos mystères. Donnez-vous à moi, je vous salue, cœur de Jésus, modèle de perfection, éclairez-moi, cœur divin, origine de tout bonheur, fortifiez-moi. Je vous salue, cœur de mon ami. Alors là, c'est là où la révérence, en même temps, et ce n'est pas incompatible, devient brûlante intimité. Une sorte de consommation dans l'esprit un petit peu du cantique des cantiques, de la bien-aimée et du bien-aimé. Je vous salue donc, caressez-moi. Voilà, c'est une... Caressez-moi, je vous salue, cœur d'incomparable bonté, cœur tout aimant, fournaise ardente, consumez-moi. Ô mon cher Sauveur, que je serai heureuse si vous imprimiez en moi votre image. Ô mon Seigneur, je ne veux rien que vous et le choix que vous ferez pour moi. Vous m'êtes suffisant, ô mon Dieu. Alors, il convient peut-être de, un petit peu dans le désordre, de dire quelques paroles ou quelques, de rappeler quelques éléments eucharistiques avant d'entrer plus dans un ordre chronologique, un peu biographique, de ce que la Sainte a vécu par rapport à l'Eucharistie. Alors, je rappelle tout d'abord que Marguerite Marie, alors là, ça concerne l'adoration, mais je rappelle quand même que l'adoration, c'est le prolongement de la communion eucharistique. Donc, évidemment, les grâces qu'elle reçoit pendant des longs temps d'adoration sont enracinées d'abord dans l'acte même de communier. Donc elle dit que lorsqu'elle est devant le Saint-Sacrement, son cœur y est comme en son centre. C'est-à-dire en fait qu'elle est décentrée d'elle-même, son cœur la quitte d'une certaine façon pour être complètement centrée sur Jésus, sur le cœur de Jésus. Et d'ailleurs, ce n'est pas étranger à l'expérience mystique qu'elle fait lors de la première grande apparition, lorsque Jésus justement lui demande son cœur, elle le supplie de le prendre, et alors son cœur justement quitte son corps pour être plongé dans la fournaise ardente de l'amour du cœur de Jésus. C'est une sorte de transfert où son cœur y reste un certain temps et comme noyé, justement, elle disparaît là, elle dit c'est comme un atome dans un incendie, et bien elle est comme noyée là-dedans, elle disparaît, et quand son cœur lui est finalement rendu, il est tout embrasé, enflammé par l'amour. Et de fait, l'expérience mystique est tellement intense de ce transfert, de cette sorte d'échange, que lorsque finalement son cœur lui est rendu, elle en gardera une douleur physique jusqu'à la fin de ses jours, ce que nous pourrons appeler peut-être des stigmates intérieurs, justement, une sorte de blessure permanente. Et alors l'attitude que cette expérience mystique, donc ce transfert du cœur doit susciter en nous, est une attitude eucharistique. Je rappelle la prière que faisaient les premiers chapelains vers la fin du XIXe siècle, lorsqu'ils ont été institués, et qui se consacraient régulièrement au cœur de Jésus, ils s'inspiraient de cette expérience mystique de Marguerite Marie. Alors ils disaient, « Seigneur Jésus, prenez mon cœur et plongez-le bien avant dans la fournaise ardente de votre divin cœur. » Et là, détachez-en toute affection et passion mauvaise. J'ai un petit peu simplifié, la phrase est plus longue, mais je l'ai simplifié, mais le sens est tout à fait cela. Et là, détachez-en toute affection et passion mauvaise. Et ça, c'est vraiment l'attitude spirituelle que nous pouvons avoir justement lors de la communion, lors de la Sainte Communion. C'est le moment où on reçoit Jésus de dire, bien justement, plonge mon cœur dans la fournaise ardente de ton divin cœur, et là, détachant toutes les lèpres, toutes les scories, toutes les laideurs, tout ce qui entrave et empêche mon cœur de devenir peu à peu un reflet de ton propre cœur. Et plus qu'un reflet, une véritable participation comme Marguerite Marie. Donc c'est pour dire qu'on n'aura peut-être pas l'expérience de Marguerite Marie de voir notre cœur nous quitter pour être plongé dans le cœur de Jésus, mais les fruits de cette expérience sont pour nous, justement. Et c'est ça l'attitude spirituelle qu'elle pourrait nous susciter en nous. Il convient aussi de mentionner, avant que j'entame peut-être de façon plus chronologique sa biographie, si je puis dire, eucharistique, sa trajectoire eucharistique, de mentionner ce qui s'est passé en 1675, peu de temps après la venue de Claude la Colombière, qui devait devenir son confesseur et père spirituel. C'est la fameuse vision des trois cœurs, si bien illustrée par le tableau qu'on voit à la chapelle de Claude la Colombière, au-dessus de la châsse de Claude la Colombière, au-dessus de ses reliques. On y voit Marguerite Marie qui s'apprête à recevoir la communion des mains de Claude, et en vision, dans une espèce de nuage, il y a trois cœurs, un grand cœur et deux cœurs plus petits. On a compris que le grand cœur, c'est celui de Jésus, et les deux plus petits, celui de Marguerite Marie et celui de Claude. Eh bien, c'est au moment de la communion qu'elle reçoit justement des mains de Claude que Jésus lui dit que désormais, ces trois cœurs, c'est-à-dire le sien, celui de Marguerite Marie et celui de Claude, sont à jamais unis. Et c'est là que notre Seigneur confirme à la Sainte que c'est bien lui, Claude, qui vient de lui donner la communion, que c'est bien lui qui l'a choisi. Il confirme que c'est lui qui l'a choisi pour être son guide et confesseur à qui elle doit se confier, justement sans réserve. Donc disons-nous que c'est quelque chose de très beau. Alors évidemment, l'expérience est particulièrement forte, elle est intense, elle est surnaturelle. Elle est sentie aussi, elle touche profondément la sensibilité et la compréhension de Marguerite Marie. Mais en fait, nous devons avoir cette foi que chaque fois que nous communions, lui, le Seigneur, a le désir que notre cœur soit intimement uni, de façon indissoluble, à lui. On ne fait plus qu'un. Le cœur à cœur qui n'en font plus qu'un, finalement. Et donc, en ce sens, la vision des trois cœurs est très inspiratrice. Peut-être encore une parole que Jésus a lui-même adressée à Marguerite Marie lorsqu'il a vu sa ferveur eucharistique. Voilà ce que le Sacré-Cœur lui adresse comme parole pour répondre à son ardeur extraordinaire de recevoir la communion. Alors écoutez bien. Si je n'avais pas institué mon divin sacrement d'amour, je l'instituerais pour l'amour de toi, afin d'avoir le plaisir de loger dans ton âme et prendre mon repos d'amour dans ton cœur. Afin d'avoir le plaisir de loger dans ton âme et prendre mon repos d'amour dans ton cœur. En cela, je crois que j'ai déjà dû le dire ici dans un enseignement sur l'adoration, mais je me répète un peu. Un des versets bibliques les plus eucharistiques qu'on puisse imaginer, mais aussi les plus accessibles, c'est au chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 20, où Jésus dit « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui pour prendre mon repas, moi près de lui, lui près de moi. » S'il y a une réciprocité, une intimité qui est scellée. En même temps, nous savons que nous ne lui rendrons jamais autant que lui nous donne, mais il se contente du peu que nous pouvons lui donner. Et comme le dit un auteur spirituel, je crois un père de l'Église, qu'il dit à travers cette parole, le plaisir infini d'abord qu'il a de venir loger en nous, de nous combler, de nous caresser, de venir vraiment habiter en nous, mais aussi, et ça, toute l'humilité du cœur de Jésus et de sa douceur, le plaisir infini qu'il a de se régaler du peu que nous, on veut bien lui donner en échange, c'est-à-dire amour pour amour. Et de toute façon, la parole dont Marguerite Marie parle, rendre amour pour amour, est une parole profondément eucharistique. Elle s'enracine dans l'Eucharistie. Donc, cette parole que dit Jésus à Marguerite Marie rappelle singulièrement, je redonne les références, Apocalypse 20, verset 3. Je redis la phrase, « Si je n'avais pas institué mon divin sacrement d'amour, je l'instituerais pour l'amour de toi, afin d'avoir le plaisir de loger dans ton âme et prendre mon repos d'amour dans ton cœur. » Alors, selon une biographie traditionnelle, un peu ancienne, mais toujours reconnue, Nous pouvons être témoins de l'appel particulier qu'elle avait reçu comme petite fille, Marguerite Marie. C'est intéressant de noter que c'est au cours d'une célébration de la messe qu'elle reçut son appel à la vie consacrée, et cela à l'âge de 5 ans. La biographie dit ceci, « Un jour qu'elle assistait à la Sainte Messe, en l'occurrence dans la chapelle privée du château de sa marraine, Madame de Corcheval, un jour qu'elle assistait à la Sainte Messe, les genoux en terre, ainsi qu'elle en avait la pieuse habitude, elle se sentit entraînée à prononcer d'une manière plus expresse des paroles qu'elle disait souvent sans en comprendre toute la portée. En effet, au moment de l'élévation, l'innocente enfant, élevant vers le Sauveur un regard mouillé de larmes, lui dit « Mon Dieu, je vous consacre ma pureté. Je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Elle sentit alors au fond de son cœur quelque chose de céleste que les années ne purent jamais lui faire oublier. Image des joies pures que le Sauveur réserve à ses chastes épouses, c'est-à-dire à ceux qui se consacrent. Après avoir perdu son père, elle avait 8 ans, elle fut mise en pension chez les Clarisses, à Charolles. On ne crut pas devoir la priver longtemps du bonheur de faire sa première communion. À partir de ce jour, qui éclaira sa vie d'éclatante et de pure lumière, il lui devint impossible de prendre part au jeu de ses petites compagnes. Certes, elle y courait avec le joyeux empressement de son âge, mais à peine s'y trouvait-elle mêlée qu'un entraînement irrésistible l'appelait à la solitude. Elle disparaissait soudain. Et si quelqu'une de ses petites amies cherchait à découvrir ce qu'elle était devenue, elle la trouvait à genoux par terre, dans quelque coin obscur, confuse et désolée de se voir surprise dans ses actes extérieurs de profonde humilité. Donc, elle avait quand même les goûts de son âge, elle aimait jouer, mais au moment où elle commençait à jouer, on a bien compris qu'il y avait quelque chose de plus fort qui l'interpellait, qui l'attirait. Un amour plus fort, quelque chose de plus, qui lui faisait considérer les joies un petit peu de cette terre, même dans l'enfance, comme peu désirables. Alors c'est peu de temps après, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est simplement pour le situer du point de vue biographique, c'est peu de temps après sa première communion qu'elle fait déjà l'expérience de la croix. Elle fut atteinte d'accès de rhumatisme et de paralysie d'une violence extrême. Une autre étape eucharistique dans sa vie, dans sa trajectoire, un jour qu'après avoir reçu la Sainte Communion, Marguerite Marie suppliait notre Seigneur de la rendre sainte, une lumière surnaturelle illumina son âme. La beauté des vertus de pauvreté, de chasteté, d'obéissance lui apparut tellement ravissante, donc au sens, cette biographie est une biographie ancienne, ravissante, c'est plus fort que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ravissant ou elle est ravissante, ça vient vraiment du mot ravir, c'est-à-dire de proche de l'extase. Donc, la beauté des vertus de pauvreté, de chasteté, d'obéissance lui apparut tellement ravissante qu'elle ressentit un désir plus impérieux que jamais d'être religieuse. Elle écoute le divin maître et sent que la victoire lui est donnée. Elle comprend la vanité des affections de la terre. Elle prend la résolution inébranlable de briser généreusement ses chaînes et de se consacrer à Dieu sous le voile de la vie consacrée, de ses chastes épouses. comme dit cette biographie. Donc la Sainte Communion en elle éveille une irrésistible soif d'absolu et de radicalité. Alors le père Gérard Dufour, anciennement, entre autres, il avait eu beaucoup de ministères dans le diocèse, anciennement chapelain ici pendant quelques mois à Paris-le-Monial, avait écrit un livre à l'école du cœur de Jésus avec Sainte Marguerite Marie. D'ailleurs, il y a trois livres qui sont remarquables. À l'école du cœur de Jésus avec Sainte Marguerite Marie, une autre avec le même titre, à l'école de Claude la Colombière, troisième, à l'école de Jean-Paul II. Là, c'est donc Sainte Marguerite Marie, et il cite pas mal de paroles d'elle. Donc, une des raisons, dit le père Dufour, qui poussèrent Marguerite Marie à embrasser la vie religieuse, était son désir de pouvoir communier et adorer. Voilà les paroles de la Sainte. Ma plus grande joie de quitter ce monde était de penser que je communierais souvent, car on ne me voulait le permettre que rarement. Et j'aurais cru être la plus heureuse du monde si je l'avais pu faire souvent et passer des nuits seule devant le Saint-Sacrement. Et les veilles de communion, je me sentais abîmée dans un si profond silence que je ne pouvais parler qu'avec violence. C'est-à-dire, elle devait se faire violence pour parler. Elle était plongée, immergée dans un silence. Pour la grandeur, dans un profond silence, pour la grandeur de l'action que je devais faire, c'est-à-dire recevoir Jésus. Et lorsque je l'avais faite, je n'aurais voulu ni boire, ni manger, ni voir, ni parler, tant la consolation et la paix que je sentais étaient grandes. Lorsqu'on entend des paroles comme ça, on pourrait être un petit peu complexé. On pourrait dire que moi, à côté, je n'ai pas cette soif, moi qui, un quart d'heure après, déjà pense à autre chose ou je ne sais pas quoi. Ces choses-là ne sont pas dites pour que nous nous comparions, mais pour que nous rendions grâce que des saints ont pu vivre avec une telle intensité la communion. Et de dire, moi je suis très pauvre à côté, je suis peut-être même misérable, mais j'ai une amie au ciel, Sainte Marguerite Marie, qui elle peut-être par sa prière suppléer à ma grande pauvreté eucharistique, mais aussi m'aider par son intercession à progresser un peu plus dans le désir, dans une sorte de radicalité, de pureté. Donc il ne faut pas être écrasé par des paroles comme cela, qui effectivement font preuve d'une radicalité, d'un absolu qui nous impressionne terriblement, mais de nous dire gloire à Dieu, merci Seigneur, parce qu'en fait, même si je le reçois dans un cœur indigne ou si peu préparé ou si peu mûr pour cela, tu ne fais pas moins en mon cœur que ce que tu as fait pour Marguerite Marie. Ça c'est une certitude, tu ne fais pas moins en mon cœur. Ce qui doit grandir en moi, c'est la capacité ou la prise de conscience de ce trésor que je reçois. Le curé d'Ars disait quelque chose de pareil. Il disait, si on savait ce qu'on recevait dans l'Eucharistie, on brûlerait sur place, on cesserait d'exister. Je continue à citer le père Dufour. Là, c'est maintenant une parole de Jésus à Marguerite Marie. C'est elle qui raconte. Après l'avoir reçue dans mon cœur, il me dit « Voici la plaie de mon côté pour y faire ta demeure actuelle et perpétuelle. C'est où tu pourras conserver la robe d'innocence dont j'ai revêtu ton âme, afin que tu vives désormais de la vie d'un homme-Dieu. » Une configuration au Christ. Et conserver cette robe d'innocence que nous avons reçue au baptême, que nous recevons de façon renouvelée après chaque sacrement de la réconciliation, et donc que nous recevons bien sûr à chaque Eucharistie aussi. Donc cette robe d'innocence dont j'ai revêtu ton âme, afin que tu vives désormais de la vie d'un homme-Dieu. Dans un autre passage, dans un autre écrit, Marguerite Marie nous demande de prier pour, vers Jésus qui est bon, prier sa bonté pour qu'il me convertisse à son saint amour dans cette grande fête du très saint sacrement d'amour, qui fait tout mon plaisir, ma dévotion et mes délices. Et nous ne devons rien épargner pour l'y honorer en tâchant pendant cette sainte octave, donc l'octave du Saint-Sacrement, pendant cette sainte octave, de réparer par nos hommages et adorations les injures qu'il reçoit, tant des infidèles que des mauvais chrétiens. Il nous est bon d'entendre cette dimension de réparation dont Marguerite Marie a justement été la messagère, très particulièrement. Et nous avons cette chance de pouvoir avoir ces nombreuses heures d'adoration, ces possibilités, qui sont, je le rappelle, la prolongation de l'acte même de communier. Ce qui veut dire que dans certains cas, si l'adoration devant le Saint-Sacrement exposée est évidemment ce qu'il y a de très beau, de mieux, enfin, du point de vue qualitatif pour notre sensibilité spirituelle, l'adoration aussi devant le tabernacle fermé est tout aussi valide. Mais il peut y avoir des situations où des personnes n'ont pas accès à l'église du tout. Donc dans leur coin prière, ou même dans la nature, il est possible, c'est plus difficile, ça met plus en œuvre notre imagination, il est possible d'adorer aussi Jésus présent dans notre cœur, à condition de respecter l'altérité. Que ce ne soit pas pour moi une occasion de me plonger en moi-même dans une espèce d'introspection narcissique ou complaisante, et que finalement c'est moi que j'adore, et pas Jésus. Donc, mais on peut adorer, c'est un acte de grande piété, Jésus, mais dans la foi de son habitation dans mon cœur, lorsqu'il vient loger dans mon cœur, comme on l'a dit, de faire sa demeure, et qu'il vient se poser sur l'autel de mon cœur. Même si mon cœur, par ailleurs, connaît des défaillances, des infidélités de toutes sortes. Donc cette réparation peut toujours être faite, et justement dans un monde tellement distrait, où si souvent, c'est presque toujours, on voit que les gens qu'on côtoie, que ce soit dans les transports au commun ou tout ça, pensent à tout, sauf bien sûr au Saint-Sacrement, normalement ils n'ont même pas été éduqués pour ça, je peux toujours au cœur de ce monde dire « Seigneur, je me retire dans la cellule de mon cœur pour réparer et pour attirer ta miséricorde sur tout ce monde affolé par l'activisme et par les séductions de toutes sortes. » Marguerite Marie nous dit aussi « Un jour que le désir de recevoir notre Seigneur me tourmentait, je lui dis « Apprenez-moi ce que vous voulez que je vous dise. » Et Jésus répond, rien, sinon ces paroles. Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi et je suis tout pour vous. Elles te garderont, ces paroles donc, de toutes sortes de tentations et suppléeront à tous les actes que tu voudrais faire et te serviront de préparation dans tes actions. Ça reprend une autre parole que j'avais sous les yeux là, lorsqu'elle parlait de la grande faim qu'elle éprouvait de la communion qu'il habitait, cette faim qu'il habitait, la sainte communion où, dit-elle, elle recevait le Dieu de son cœur et le cœur de son Dieu. C'est très beau, cette nouvelle union de cœur à cœur. Le Dieu de son cœur qui remplit son cœur, et, encore bien plus grand, le cœur avec un C majuscule, le cœur de son Dieu. Alors là, de nouveau, je vais vous lire quelque chose. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. C'est exactement dans le sens que je vous ai dit. Si ça nous fait progresser un petit peu dans une pratique post-communion, tant mieux. Mais écoutons ça plus dans l'action de grâce. L'action de grâce, alors ça c'est le père Dufour qui parle, l'action de grâce de Marguerite Marie donne à rêver. Mais elle peut tout de même nous stimuler à ne pas lésiner sur le temps de silence qui doit suivre la Sainte Communion. Alors voilà ce qu'elle dit. Mon Dieu me donne un si grand désir de la Sainte Communion que rien n'est capable de me donner une joie si sensible que ce pain d'amour, après la réception duquel je demeure comme anéanti devant Dieu, qui me dure environ un demi-quart d'heure, pendant lequel tout mon intérieur est dans un profond silence pour écouter la voix de celui qui fait tout le contentement de mon âme. Voilà, la post-communion. Prendre conscience qu'on est le temple du grand roi qui vient y loger, et donc le laisser parler, le laisser agir. C'est tout simple, mais il est vrai que là, Marguerite Marie l'a vécu avec une intensité très particulière, qui est en même temps une grâce, un don. Alors là, elle va parler aussi de la Vierge Marie, brièvement. Par la Sainte Communion, il me faut demander les dispositions que la Vierge Marie avait au moment de l'incarnation, tâchant d'y entrer le plus qu'il me sera possible par son intercession, disant avec elle, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Je reprends ce qui a été dit un petit peu aujourd'hui dans l'homélie, mais ça me semble si important que le lien entre l'acte de communier et l'annonciation qu'on a entendu aujourd'hui donc dans cette messe en l'honneur de Sainte Marie, temple de l'Esprit Saint. Et c'est Jean-Paul II qui fait l'analogie. Il dit que lorsque nous communions, la Vierge Marie se tient près de nous avec toute l'efficacité de son fiat, c'est-à-dire qu'il me soit fait selon ta parole. Lorsque le prêtre, ça c'est Jean-Paul II qui explique ça, lorsque le prêtre présente le corps du Christ au communiant, il lui dit « le corps du Christ », le communiant répond « Amen ». Ça veut dire « je crois et j'adhère », qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas simplement « Amen, merci beaucoup, je suis bien content, voilà ». C'est vraiment « je crois et j'adhère ». Et en ceci, il rejoint l'acte de foi de la Vierge Marie, qui, à la parole de l'ange, qui lui annonce que le Verbe éternel va prendre chair en elle, substantiellement, répond « Amen, fiat, qu'il me soit fait selon ta parole ». Donc il y a un lien très profond, analogique, entre la communion des fidèles et le fiat, l'adhésion totale de la Vierge Marie dans toute la pureté de sa foi. Et c'est comme si on la recevait. Alors nous, on reçoit Jésus sacramentellement, et elle l'avait reçu réellement, enfin donc même biologiquement, en son sein. Et donc Marguerite Marie, sans développer tout ce que je viens de vous dire là, dit cependant, elle a bien compris qu'il faut entrer dans la Sainte Communion par l'intercession de Marie, 10 ans avec elle, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Alors la communion eucharistique, la ferveur eucharistique de Marguerite Marie, évidemment se projetait en ferveur pour le sacerdoce et son grand amour pour les prêtres. Elle écrit au père Croisé, jésuite, son estime du sacerdoce, en exprimant justement son ardent amour pour l'Eucharistie, dont les prêtres sont les ministres. Alors elle lui écrit, Oh, que vous serez heureux de participer tous les jours à ce divin sacrement, de tenir ce Dieu d'amour entre vos mains et de le mettre en votre cœur. Je n'envierai que ce seul bien et de me consumer comme un cierge ardent en sa sainte présence tous les moments de vie qui me restent. Donc voilà, prions pour que les prêtres, malgré le nombre des années, un petit peu l'habitude, soient toujours émerveillés de ce qu'ils tiennent dans leurs mains et de ce à quoi ils vont communier et ensuite distribuer dans la communion. Dans la Sainte Eucharistie, nous dit le Père Dufour, Jésus est présent pour être offert en sacrifice. Communier entraîne nécessairement que notre vie devienne une offrande unie à celle du Sauveur. Alors Marguerite Marie raconte que Jésus lui demande, il me demanda, après la Sainte Communion, de lui réitérer le sacrifice que je lui avais fait de ma liberté et de tout mon être, ce que je fis de tout mon cœur. Pourvu, lui dis-je, ô mon souverain maître, que vous ne fassiez jamais rien paraître en moi d'extraordinaire. Là, c'est un peu raté quand même. 350 ans après, bon, c'est... Mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Elle aurait voulu disparaître. Comme Pierre dans la barque après la pêche miraculeuse, qui se jette aux genoux de Jésus et dit « Éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Alors, elle donne aussi des conseils à ses novices. Marguerite Marie, elle les instruit sur l'Eucharistie. Elle leur dit, après la Sainte Communion, prosternez en esprit à ses pieds et comme tenant votre cœur en vos mains, faites-lui un entier et parfait sacrifice de tout ce que vous êtes. Alors là, un petit peu le style de l'époque. Le suppliant de ne pas vous rejeter après lui avoir si longtemps résisté, ne vous réservant rien que le seul désir de lui plaire et l'aimer, quoi qu'il vous en puisse coûter. Car il veut tout ou rien. Unissez-vous toujours en tout à ses desseins sur vous. Et puis laissez-le faire tout ce qu'il voudra de vous, en vous et pour vous, anéantissant toutes les vues contraires. On va terminer avec une prière de Marguerite Marie, au cœur divin. J'ai juste un doute, je me demande si je ne l'ai pas déjà dite. Je ne pense pas. Ô cœur embrasé et vivant d'amour, ô sanctuaire de la divinité, temple de la majesté souveraine, autel de la divine charité, cœur qui brûlait d'amour et pour Dieu et pour moi, je vous adore, je vous aime, je me fonds d'amour et de respect devant vous. Je m'unis à vos saintes dispositions. Je veux brûler de vos feux et vivre de votre vie. Que j'ai de joie de vous voir heureux et content. Que je prends part à vos grâces, à vos douleurs et à votre gloire. Et que de bon cœur, je voudrais mourir et souffrir plutôt que de vous déplaire. Ô mon cœur, il ne faut plus agir que par les mouvements du Sacré-Cœur de Jésus. Il faut expirer en silence devant lui à tout ce qui est humain et naturel. Ô cœur divin, je m'unis à vous et me perds en vous. Je ne veux plus vivre que de vous, par vous et pour vous. Ainsi, tout mon emploi sera de demeurer en silence et en respect, anéanti devant vous comme une lampe ardente qui se consume devant le Saint-Sacrement, aimer, souffrir et mourir. Voilà. Alors, je vous recommande ce livre du Père Dufour, parce que ce livre a le mérite de présenter différentes thématiques. Là, j'ai pris celle de l'Eucharistie, mais il y a beaucoup de choses. Il y a sur l'amour, sur la croix, sur la passion, sur beaucoup de choses. Et de même, ces autres livres. Et puis, le livre beaucoup plus récent du précédent recteur des sanctuaires ici, le Père Benoît Guédas, qui était encore avec nous l'an dernier, à cette époque-là, et qui était en train de terminer justement ce livre, « Dans le cœur de Jésus, Sainte Marguerite Marie, maîtresse de vie spirituelle », aux éditions aussi de l'Emmanuel, comme le livre du Père Dufour. Donc vous trouvez tout ça dans la librairie ici, du Sacré-Cœur. Et là, je vous le recommande parce que c'est une manière très nouvelle, originale aussi, et très adaptée à notre temps, de nous stimuler à entrer dans ce désir, dans cette soif d'amour eucharistique du cœur de Jésus. Nous pouvons terminer avec le chant. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton